Vous êtes sur le point d'écouter AI, un podcast intelligent et sans artifice, en forme de réflexion sur les promesses d'avenir radieux portées par les chants plus ou moins mélodieux des sirènes binaires de l'océan digital. It's on a sinking, the cattle go devils go down, it's rattling, those wings
along. Bonjour, je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous écoutez la seconde partie du podcast AI consacré au
Never Offline.
Toujours sur la mezzanine du poste général avec mes trois camarades humains, Olivier Vigneault, grand Manitou de BETC Digital.
Bonjour.
Sébastien Audus, gourou de la stratégie digitale.
Bonjour.
Et Félix Barès, champion de l'éditorial.
Bonjour.
Tout de suite, afin de relancer notre débat d'une intelligence rare, je vous propose d'écouter les craintes plus ou moins justifiées de Monsieur Parano.
Oui, ben moi ce que je me demande, c'est un peu des craintes en deux parties. La première partie serait que, est-ce que ce n'est pas une drogue d'être toujours connecté? Est-ce qu'on ne nous rend pas dépendants? Et est-ce que si quelqu'un nous coupe le robinet, on va pas être en manque, hein, tout simplement, avec tout ce que ça implique. Et puis l'autre pendant de la balance, est-ce qu'on risque pas également comme un burn-out de surconnexion, quoi? Parce que tout ça, ça nous agite les neurones, enfin des choses qui n'existaient pas avant dans la vie de nos parents, de nos grands-parents. Qui avaient d'autres soucis à se faire, vous me direz, mais bon.
Alors, est-ce que M. Parano a raison d'avoir la pétoche?
On ressent tous un peu la même chose que lui, en tout cas on est tous un peu dans l'état probablement qui a été celui de Louis XV et de Louis XVI, hein, qui ont voulu se déconnecter un peu.
Alors il y en a un qui s'est vraiment déconnecté pour le coup.
Ouais, il a coupé le courant.
Il a tout coupé.
Parce que les gens se préoccupent du temps qu'ils passent avec leur téléphone et sont en train de vouloir mesurer, connaître exactement leur temps de connexion. Pas forcément d'ailleurs pour se déconnecter, mais en tout cas déjà pour reprendre un peu le contrôle.
Donc il y a un vrai mouvement, on parlait Louis XVI à l'instant, une sorte de révolution peut-être qui se prépare sur le offline, c'est-à-dire mettez-vous hors circuit.
Déjà on peut dire qu'il y a 2/3 des Français qui se disent dépendants à tout ce qui est smartphone, tablette et donc connectivité en général selon une étude récente.
Oui, on avait justement questionné la relation des gens notamment avec le digital et surtout avec leur smartphone et on leur posait la question: est-ce que vous considérez que vous êtes esclave de votre smartphone? Et il y a effectivement, comme tu dis Félix, ça dépend des pays, mais il y a 25% des Français qui disent « oui, je me considère esclave ». Et quand on va en Chine, on est quasiment à 40% des gens qui se disent « oui, je suis esclave de mon smartphone », avec une question qui était un peu provocante. Et d'ailleurs, en fait, c'est un peu « I am a slave and I like it ». Et puis, de temps en temps, en fait, je me trouve trop dépendant et ça m'embête un peu.
Et c'est d'ailleurs pour ça que fleurissent des applications pour nous aider, c'est quand même assez marrant, à, par exemple, ne rien faire pendant quelques minutes, parce qu'on s'est déshabitué de ne rien faire. Donc paradoxalement, il y a des applis qui nous disent « ne faites rien pendant quelques minutes, retrouvez le zen, etc. » qui sont vraiment des applis très téléchargées parce qu'elles nous déconnectent. Et c'est particulièrement intéressant parce que tous les chercheurs qui travaillent sur comment se construit la pensée de quelqu'un, la pensée, elle se construit par la réflexivité, c'est-à-dire les moments où je n'ai plus de stimuli et où finalement je prends un peu de recul sur tout ce qui m'est arrivé et où je construis quelque chose qui soit ma pensée à moi, quelque chose de singulier. Et si je suis en permanence en train de réagir à tout ce qui m'est proposé, je ne construis plus de pensée singulière. Je suis simplement dans la réaction permanente et c'est manifestement un des facteurs de la dépression. Je ne construis plus quelque chose qui vienne de moi et ça correspond à l'état dépressif. Donc c'est vraiment très sérieux ce sujet.
Nietzsche avait déploré la naissance de la société de la réaction, une société très pauvre selon lui, et privilégiait les moments d'ennui. L'ennui qui est effectivement créatif et vecteur de connaissance de soi.
Il y a beaucoup d'applications et autres systèmes qui récompensent l'attention permanente. Je ne sais pas si on l'a évoqué dans notre précédente émission, cette espèce de prime à l'attention.
L'idée, c'est justement de sortir du design qui récompense l'attention et l'addiction aux applis. Les anciens ingénieurs qui travaillaient chez Google, tout ça, prônent plutôt des labels vers des applications de connexion douce, où on apprend aux gens, où on pousse les gens à justement à faire des pauses, à pas forcément récompenser le fait d'être fidèle à une appli ou d'être tout le temps connecté, mais de proposer des pauses, des moments déconnectés.
Je vous propose de faire une pause. Éteignez votre portable. Vous reprendrez un peu plus tard et bien reposez l'écoute de ce splendide podcast.
C'est vraiment ceux qui ont travaillé au cœur du système qui se révoltent contre le système ?
Tristan Harris, qui est un ancien designer de chez Google, en 2014, produit une note qui va circuler pas mal chez Google en disant « En fait, aujourd'hui, on en est arrivé à un point où on est dans une telle course à l'attention qu'on produit les fameux dark patterns dont on a parlé lors de la dernière émission. On produit du design qui est addictif pour les gens juste pour qu'ils restent sur nos plateformes tout le temps. » Donc, sa note circule beaucoup chez Google et c'est là où le système est extraordinaire. On dit « Ah, Tristan, cette note extraordinaire que tu nous as produite, on va te nommer, tu ne vas plus être designer chez Google, tu vas être design éthiciste, donc tu vas introduire de l'éthique dans notre design, et product philosopher. » Et donc le mec se dit, tiens, ma parole est entendue, et puis au bout de 6 mois, en fait, il comprend que c'était juste une tentative du système de le récupérer pour pas qu'il aille porter une parole trop publique ailleurs. Et en l'occurrence, c'est ce qu'il a fait, il a démissionné de Google et il a créé un mouvement qui s'appelle Time Well Spent, qui est un mouvement qui incarne une vraie forme de lobbying. Il a beaucoup parlé lors de TEDx, etc. Il est soutenu par des gens, notamment Roger McNamee, qui est un ancien investisseur, un des premiers investisseurs de Facebook, qui s'est un peu retourné contre Facebook. Et il dit aujourd'hui, effectivement, on est rentré dans un système extrêmement pervers où tous ces gens sont incentivés sur le temps qu'on passe sur les plateformes. Et en fait, on devrait changer le but ultime du design. C'est-à-dire, le but ultime du design ne devrait pas être il faut que tu passes encore plus de temps sur Facebook, encore plus de temps sur Google, encore plus de temps sur YouTube. Mais on devrait utiliser la technologie pour mieux connecter les gens entre eux, c'est-à-dire donner un but ultime qui est parler plus à Félix, parler plus à ton voisin, parler plus à tes amis, plutôt que de passer du temps seul, parce qu'en fait ça conduit à la dépression et autres.
Il y a quand même à l'intérieur de ces entreprises des personnes qui se disent les services c'est quelque chose, mais il y a une éthique à respecter.
Leur vocation n'a jamais été de prendre le pouvoir sur nos vies, sur nos corps. C'est plutôt qu'elles gèrent les effets secondaires négatifs en se rendant compte qu'effectivement ça pourrait aboutir à ça. Mais
quand Netflix dit il faut produire des contenus pour que les gens ne quittent jamais la chaîne, c'est vraiment prendre pouvoir sur nos corps.
Oui, d'accord, c'est quand même un peu de la provoque. Ce que je trouve un peu exagéré, c'est le terme prise de pouvoir, parce que on a l'impression qu'on est dans de la science-fiction et qu'il y a une volonté quasiment voilà, de posséder la vie des gens.
Mais moi j'aimerais bien qu'on soit pas dans la science-fiction, Olivier, mais quand même qu'on en ait à faire des rendez-vous où des gens parlent juste pour expliquer qu'il faut avoir du time well spent, qui consiste grosso modo à faire autre chose que toucher son téléphone, c'est qu'on est déjà arrivé dans une situation humaine un peu complexe.
Non mais je suis d'accord, mais simplement ce que je voulais dire c'est qu'il n'y avait pas d'intention. Voilà, au départ, que finalement ce sont plutôt les conséquences négatives d'une gestion insuffisamment intelligente et insuffisamment visionnaire de ce que tous ces outils allaient changer dans nos vies, ça c'est sûr. Et donc c'est pour ça qu'après, effectivement, il y a le label bio du site internet Time Well Spent qui est une manière de résister un peu. Donc effectivement, je dis pas du tout qu'il faut minimiser les conséquences que ça a, mais bon, après c'est pas non plus, c'est pas totalitaire, en tout cas je pense pas.
Le bio du web, en fait, c'est comme le bio dans l'alimentation. C'est aussi un énorme business. Les gens font de l'argent avec ça. Et surtout, c'est pas anodin, ça vient de la Silicon Valley. Et pour la légende veut que Bill Gates et Steve Jobs interdisaient la tablette à leurs propres enfants. Il y a toujours une méfiance, évidemment, de ceux qui connaissent la technologie vis-à-vis de ça. Pourquoi Google fait lui-même le business de la détox, de la digital détox ? Il développe des applications pour nous aider à voir combien de temps on passe sur notre portable. C'est aussi une manière de nous dire, OK, vous pouvez vous déconnecter, Mais à l'inverse, du coup, quand vous vous reconnectez, connectez-vous vraiment. C'est une manière de le dire, vous avez le droit à des petits temps déconnectés, mais la vraie vie, c'est la vie connectée. Donc c'est aussi pervers comme manière de parler.
Il y a des conséquences plutôt positives. Donc Google, ils ont annoncé récemment un programme qui s'appelle Digital Wellbeing, qui te permet, par exemple, de limiter le temps que tu vas passer sur des applis. Apple a sorti la même version, ça s'appelle Screen Time. Ça permet, par exemple, si je trouve que je passe trop de temps sur Instagram, je vais moi-même régler en disant il faut que je passe pas plus de 10 minutes par jour sur Instagram. Et donc, les programmes de Google et Apple sont un peu équivalents. Mais une fois que j'ai passé 10 minutes sur Instagram, évidemment, je peux débloquer la limite. Mais quand même, normalement, l'application se ferme. Autre point que Tristan Harris avait beaucoup recommandé, c'était l'addiction aussi à la lumière qui est des écrans. Donc, par exemple, aujourd'hui, il existe la possibilité sur les iPhones ou sur les téléphones Google de passer les écrans en noir et blanc et d'arrêter les notifications parce que ça permet de mieux gérer les problèmes d'attention. Et le troisième point qu'ils mettent en place, c'est dans la relation...
C'est quand même intéressant ce que vous dites, Sébastien, parce qu'il suffirait de le couper quand même, le téléphone.
Non, parce que là, ça limite l'utilisation, ça ne l'empêche pas.
Mais parce qu'en fait, on veut profondément rester connecté. Donc le sujet, c'est essayer de trouver la meilleure manière de rester connecté, mais de ne pas quitter la toile.
Ah oui.
Le dernier exemple, c'est entre les parents et les enfants, c'est-à-dire qu'ils vont donner encore plus la possibilité aux parents de contrôler à distance. Le grand jeu qui excite super fortement les ados en ce moment, c'est Fortnite, qui a un énorme succès marketing mondial, etc. La possibilité est offerte aux parents de contrôler à distance le téléphone de leurs enfants pour dire, bon, bah, Fortnite, tu as joué 5 heures aujourd'hui, en fait, ça suffit, on va dire, c'est 10 minutes par jour, point.
Personnellement, j'ai essayé ce type de contrôle à distance sur Switch, je crois, la console, et au bout de la 20e fois où ça m'annonce que c'est fini, mais qu'on essaye de jouer, qu'il faut que ça continue, mais qu'on essaye, etc., j'ai fini par couper ce contrôle parce que je n'en pouvais absolument plus. C'était plus la connexion, c'était l'archi-hyper-connexion permanente.
Dans la relation aux enfants, et ce que soulignait Félix est effectivement super intéressant, et ça peut quelque part faire un peu peur. Effectivement, tous les parents de la Silicon Valley, on parle beaucoup de Steve Jobs qui avait dit dans une interview au New York Times, mes enfants n'auront pas droit à l'iPad quand il est sorti.
C'est quand même dingue, hein, quand on y pense. Oui.
Et tous les gens de la Silicon Valley, on voit beaucoup d'articles, envoient leurs enfants dans des écoles qui sont tech-free, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordinateur, qu'il n'y a pas d'iPad, qu'il n'y a pas de tablette, de téléphone ou autre, et refusent par exemple de les équiper de smartphones avant qu'ils soient vraiment adolescents et tout.
Sur le business de ce qu'on pourrait appeler la slow connexion, en fait, depuis longtemps, les marques, elles se positionnent. J'ai vu qu'en 2009, Burger King avait déjà organisé un jeu sur Facebook intitulé The Whopper Sacrifice. En fait, en l'échange d'un sandwich gratuit, on devait sacrifier 10 de ses amis Facebook. C'était pour montrer qu'il y avait les amitiés Facebook n'étaient pas des vraies amitiés. Il y a un festival Unplugged fait par la marque Innocent qui fait aussi des produits à base de fruits bio. Et puis il y a KitKat avec son fameux slogan Have a break, have a KitKat qui a financé des free no wifi zones à Amsterdam. Donc cette vague de la déconnexion, elle est déjà bien ancrée dans l'esprit des marques comme une manière de communiquer.
C'est aussi une des tendances de fond de l'hôtellerie de luxe. L'ultime luxe n'étant évidemment pas d'avoir le wifi dans sa chambre, mais au contraire d'être dans des zones absolument préservé, comme cette vague qu'il y a eu il y a quelques années aussi aux États-Unis des restaurants où les smartphones étaient interdits, donc on les remettait à l'entrée dans un petit panier pour s'assurer qu'on était un peu connecté aux autres en vrai dans la vie. Mais tout ça, c'est quand même des initiatives très marginales, c'est quand même ça qu'il faut se dire. C'est comme les gens qui interdisaient aux enfants de regarder la télé il y a 30 ans, voilà, c'était aussi un marqueur social, mais au fond, c'est resté très marginal et le reste de la population a très largement regardé la télé, s'en est remise, et probablement que le reste de la population aujourd'hui va se connecter aux iPads et s'en remettre.
On parlait de fracture digitale dans le numéro précédent, et là, c'est vrai qu'avec la déconnexion, il y a une autre fracture sociale entre ceux qui sont éduqués à la technologie, donc qui savent se déconnecter, qui savent utiliser les applis qui te servent à mieux utiliser ton smartphone, et évidemment, le reste, ceux qui sont connectés, qui ne savent pas déconnecter et qui vont se prendre de plein fouet toutes les problèmes et les maladies, les conséquences de la connexion. Donc là encore, on voit bien que le fond du problème, effectivement, tu as accès à l'éducation ou pas.
Bien, on va quand même faire un petit peu confiance à l'humain encore quelques secondes et parler de culture avec Manon.
Marseille, un après-midi comme les autres, dans un futur pas si lointain. Depuis que Xenia, l'unique réseau universel, est partout, les ruelles animées de la cité phocéenne sont silencieuses. On marche côte à côte entre amis, mais les discussions se font par messages interposés. Pour se dire bonjour, plus besoin de se regarder, encore moins de se toucher, il suffit juste de synchroniser nos données personnelles en rapprochant nos smartphones connectés. On appelle ça se linker. Et au milieu de ce monde devenu zombie, seul un prédicateur réfractaire, vestige du passé, hurlera au réveil et sera aussitôt poursuivi par la cybersécurité en drone monté. C'est ce qui se passe dans Hyperconnexion, cette web-série d'anticipation collaborative au scénario original proposé par Nicolas Debru, alias Lasco, et lancé en 2015. Sorte de Black Mirror made in Marseille, la web-série a le mérite d'oser s'attaquer sans énormes moyens, mais avec humanité et inventivité, à tous ces questionnements posés par l'hyperconnexion. Cybersécurité, protection des données, déshumanisation, conscience artificielle. Si vous voulez rester hyper connecté, mais en toute conscience, regardez les deux premiers épisodes de 7 minutes sur YouTube et découvrez l'univers de la série sur le site www.hyperconnexion.net.
Fin du message.
Juste un conseil, chers auditeurs, ne la regardez pas en marchant dans la rue, vous risquez d'entrer dans le futur un peu trop vite.
Eh bien, merci. Voilà un peu de fraîcheur dans notre monde de brut. Sébastien, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, je voulais dire quelque chose pour conclure qui est assez frappant. La tech est toujours adepte de ces mots-valises qui font un peu le buzz. Il y avait, il y a 4-5 ans, une expression qui était le FOMO, qui était le fear of missing out. Donc la peur de rater quelque chose qui nous poussait du coup à être tout le temps connectés, et on voit émerger une autre, un autre acronyme de plus en plus lié à la déconnexion qui est le JOMO, qui est en fait le Joy of Missing Out. En fait, c'est super de rater des choses, c'est super d'aller vivre sa vie, etc.
Wow, ma vie est décrite par un acronyme.
Tout à fait. On passe du FOMO au JOMO. Moi j'adore ce truc.
Mais... si, je ne sais pas si on le gardera, mais il y a une anthropologue du
digital. Oui, parce que c'est un podcast, donc je peux couper les interventions si je veux.
Mais en fait, je commence pas la phrase parce que je ne sais pas si on le gardera, sinon tu es sûr qu'il ne va pas le garder.
Ou que je vais le garder.
Je vais retrouver son nom. Oui, il y a une anthropologue du digital qui a dit que c'était en fait l'idée de déconnecter pour revenir à la vraie vie, c'était en fait une arnaque parce que la vraie vie, elle est connectée. Voilà, donc il n'y a pas de retour à la vraie vie malheureusement, c'est fini ça.
Mince, c'est-à-dire qu'on se réveille de son rêve et qui était un cauchemar, et en fait c'est vraiment un cauchemar.
Bah oui, l'idée de dire déconnectez-vous, retrouvez la vraie vie, c'est faux.
Je suis pas d'accord, c'est pas faux. Y a des moments dans ta vie qui peuvent ne pas être connectés, à faire un dîner avec des amis sans avoir checké son téléphone une fois, c'est possible. C'est une vie normale qui n'est pas connectée, et c'est le job, c'est le joy of missing out.
Très bien, Olivier, vous êtes quand même la voix des marques, la voix du positif dans l'affreux.
La voix des GAFA.
La voix des GAFA. Enfin,
je voudrais remercier mes partenaires.
Vous êtes un peu notre devil. Une conclusion. Quel est l'avenir de tout ça? Bon,
je pense que tout n'est qu'une histoire d'équilibre, c'est tout. C'est-à-dire, bien entendu, que voilà, la connexion permanente n'a pas de sens et qu'elle nous assèche, je pense. Mais après, rêver d'une vie totalement déconnectée, comme le disait Félix, ça n'a pas de sens non plus parce que c'est passer à côté du progrès, tout simplement.
Comme disait Aristote, la sagesse est dans le juste milieu.
L'équipe de High elle-même sait faire du offline. Elle va déconnecter, partir un petit peu en vacances, profiter du soleil non Wi-Fi. Sur son corps, peut-être tatoué, on verra. On se retrouve à la rentrée pour aborder un sujet, en tout cas qui me passionne et qui a passionné Asimov avant moi, à savoir...
les robots.
Voulez-vous en savoir plus?
C'était AI, une émission du Poste Général en partenariat avec BETC Digital.